Ce fut ce jour-ci que je reçus une nouvelle lettre d'un membre éminent du Rassemblement national, proche parmi les proches de Marine Le Pen, Sébastien Chenu. Il était résolu à m'adresser un courrier de soutien chaque semaine, aussi longtemps que durerait mon incarcération. Il s'agissait de missives assez longues, bien loin des messages s'inspirant de textos habituels. Le contenu était sensible, personnel, humain, sans considération politique partisane. On n'était plus dans l'affrontement politique habituel entre membres de formations opposées. Ces textes parlaient de la vie, des sentiments profonds et du respect qu'ils portaient à ma personne comme à ma famille. J'étais touché, aussi bien par la profondeur que par la permanence de ses pensées. À cela s'ajoutait la gentillesse et la délicatesse qui en émanait. Elle témoignait d'une personnalité sensible, capable de s'élever au-dessus des querelles politiciennes pour aller à l'essentiel des rapports humains. Je n'oublierai pas l'étonnement qui fut le mien et le bienfait que cela me procura. Je connais de longue date Sébastien Chenu, puisqu'il a milité pour moi en 2007 comme en 2012. Il a même exercé des responsabilités au sein de l'UMP que je présidais en région parisienne, ainsi qu'à la tête du mouvement Guélib, dont il a été l'un des fondateurs. Puis il a quitté ma formation politique, alors que je ne la dirigeais plus, pour rejoindre Marine Le Pen. Il a depuis été élu député du Nord et même vice-président de l'Assemblée nationale. Sa fidélité personnelle m'a beaucoup touché. Elle aussi était parfaitement désintéressée. Elle montrait surtout qu'en politique, contrairement à ce qui est si souvent affirmé, les rapports humains pouvaient perdurer. Des choix politiques différents ne conduisent pas nécessairement à des ruptures affectives ou à des reniements personnels. Les sentiments qu'il exprimait étaient ceux d'un Français choqué par l'injustice qui me frappait et ému par la situation humiliante, pour ne pas dire dégradante, que je devais vivre. Il m'appelait même à ne pas tourner le dos à la France et à la politique. « Nous avons besoin de votre expérience », concluait-il. J'étais heureux d'avoir un ami comme lui, courageux et sensible. Je pensais à la diabolisation dont beaucoup de ces femmes et de ces hommes sont victimes de la part d'une gauche qui n'a pas fait, c'est le moins que l'on puisse dire, la démonstration dans mon affaire de la même grandeur de sentiment ou de la même hauteur de vue. Beaucoup d'électeurs actuels de Marine Le Pen et de Jordan Bardella étaient à mes côtés lorsque j'étais dans la politique active. Jamais, lorsque j'étais président de l'UMP, ni le père, ni la fille n'ont été présents au second tour de l'élection présidentielle. Insulter les dirigeants du Rassemblement national, c'est insulter leurs électeurs, donc les nôtres, au moins potentiellement. On ne gagne pas la France en insultant les Français. Mon ancienne formation politique n'est pas aujourd'hui en position de force. Elle ne peut plus, en tout cas au moment présent, à elle seule, espérer incarner l'avenir. Elle aura même du mal à être qualifiée pour le second tour, ou à tout le moins, celui-ci ne lui est pas garanti. Le chemin de la reconstruction peut être long, mais je suis certain qu'il ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. Tout autre choix ne conduira qu'au repliement et à l'échec. L'alternative ne réside pas, comme je l'entends trop souvent, dans un accord ou non avec le Rassemblement national, mais dans une volonté de parler sincèrement, vraiment, profondément, à ces électeurs qui ne sont plus les nôtres après l'avoir été. L'enjeu est, comme toujours, dans la reconquête. Celle-ci ne peut passer par des postures qui ne signifient plus rien aujourd'hui. Cela sera le grand débat de demain. Peut-être plus tôt qu'on l'imagine, si, comme je le crois toujours, des élections législatives anticipées devaient être organisées pour sortir la France de la crise politique profonde dans laquelle elle ne cesse de se débattre. J'ai beaucoup de divergences avec les dirigeants du Rassemblement national. Nous n'avons pas les mêmes convictions en matière de politique économique. Nous n'avons pas la même histoire, donc pas les mêmes références. Et je note qu'il peut encore y avoir chez eux des personnalités qui posent problème. Mais les exclure du champ républicain serait une erreur et un contresens. Ils représentent tant de Français, respectent le résultat des élections et participent au fonctionnement de notre démocratie. Les considérer me semble aussi naturel que nécessaire. Tout autre comportement serait absolument incompréhensible pour des Français qui supportent de plus en plus difficilement les outrances de la France insoumise et le cordon sanitaire factice autour d'un rassemblement national qui ne constitue pas un danger pour la République. Avec la fin espérée de cette détention, aussi injustifiée qu'inutile, j'eus la bonne surprise de voir les soutiens nationaux et internationaux se multiplier. Je fus particulièrement sensible aux actions menées par la classe politique bulgare. Pas moins de 3 présidents bulgares, dont le chef d'État actuel et de nombreux ministres et anciens ministres, demandaient ma libération et appelaient leurs collègues européens à faire de même. J'en étais heureux et touché, d'autant que je n'avais pas compris ce long silence de leur part. En effet, je vivais cet interminable cauchemar parce que j'avais, dès 2007, voulu voler au secours des 5 infirmières bulgares et du médecin palestinien condamnés à mort par Kadhafi au motif fallacieux qu'ils auraient volontairement inoculé le sida à plus de 400 enfants de Benghazi. Ces malheureuses avaient été par ailleurs violées, battues, torturées par leurs geôliers. Personne n'avait pu obtenir leur libération, pas même les 114 prix Nobel qui avaient lancé un appel en leur faveur. Leur martyr durait depuis des années. Émus par la situation dramatique qu'elles subissaient, dès le soir de mon élection de 2007, j'avais indiqué que pour moi, ces victimes étaient françaises, car toute personne injustement emprisonnée à travers le monde devait pouvoir compter sur la protection du pays qui avait rédigé et promu la Déclaration des droits de l'homme. Je rappelle que cette dernière a vocation à l'universalité, sans que son application soit limitée à nos seules frontières. Ces malheureuses furent finalement libérées dans les conditions que l'on connaît. C'était une merveilleuse nouvelle pour elles, et pour la France un motif de fierté. Son engagement avait fait la différence. On aurait aimé la même conclusion pour Boualem Sansal. À l'époque, la France n'avait pas besoin de la diplomatie allemande. D'autres témoignages se faisaient jour. Je découvrais dans la presse les déclarations du colonel François, qui avait passé 2 années terribles dans les prisons d'Antananarivo. Sa fille était venue me prier d'aider son père à sortir de cet enfer. Emmanuel Macron n'avait pas reçu la famille de ce pauvre homme. Ils se sentaient abandonnés. Ils avaient eu connaissance de mes liens d'amitié avec le président malgache Rajoelina. Après quelques mois d'efforts, j'avais pu obtenir son transfert vers Paris. Personne n'en avait rien su, à l'exception des intéressés. Ils m'en étaient restés reconnaissants et me le témoignaient en m'apportant leur soutien. Comme l'avait fait avant eux, Ingrid Betancourt, dont la France avait beaucoup aidé à la libération après 6 années d'enfer aux mains des FARC dans la forêt amazonienne. Je reçus aussi des messages émouvants de Florence Cassez, que j'avais toujours refusé d'abandonner à son sort injuste dans les geôles mexicaines. De même que des familles de Miachem et Naama Levy, les 2 otages de Gaza, à la libération desquels j'avais œuvré. Toute ma vie d'avant la santé, j'avais attaché une grande importance à me trouver aux côtés de ceux qui avaient tout perdu en se voyant injustement emprisonnés. J'ai toujours pensé que le grand pouvoir d'un chef d'État devait être utilisé prioritairement au service de ceux qui en avaient un besoin vital. C'est pourquoi je n'ai jamais hésité à m'impliquer personnellement pour obtenir des libérations. selon mon expérience, laisser faire le Quai d'Orsay et les diplomates n'était pas la meilleure garantie d'efficacité. C'est peu dire que mes deux successeurs, François Hollande et Emmanuel Macron, n'avaient pas ce même intérêt. Je peux les comprendre. Personne n'est obligé de prendre des risques, y compris celui d'échouer. Mais à mes yeux, le véritable risque, c'est de laisser des malheureux dans leur geôle. Je n'ai jamais pu supporter cette injustice. L'ironie voulait que ce soit moi, maintenant, qui devais la vivre. L'un des moments les plus émouvants du procès devant le tribunal correctionnel fut l'audition des proches de victimes de l'attentat UTA au-dessus du désert du Ténéré en 1989. Le temps n'avait pas effacé la douleur de la perte d'un être cher. Chacun peut aisément le comprendre et partager cette légitime émotion. J'ai été bouleversé par nombre de ces témoignages. Je fus cependant affecté par la violence de certains propos à mon endroit. D'abord, parce que j'avais tenu à recevoir une délégation des familles de victimes lors de la visite de Kadhafi à Paris en décembre 2007. Ce dernier m'en avait voulu et l'avait fait savoir publiquement. La rencontre avec les représentants des familles s'était déroulée dans un climat de confiance et de respect, ce dont il s'était félicité en soulignant que j'étais le premier président de la République à les avoir reçus. Je pensais qu'il n'en était resté aucun malentendu. Ma position avait été claire et transparente. Ensuite, il me paraissait difficile que l'on me reproche des relations diplomatiques avec le régime libyen, alors que les familles de victimes de l'attentat avaient elles-mêmes négocié avec lui l'accord d'indemnisation à hauteur de 1 million d'euros pour chacune. Parler avec les représentants de ce régime n'était donc pas répréhensible. Cela était même nécessaire sur bien des aspects. Contrôle de l'immigration illégale, lutte contre le terrorisme, accès à des marchés pour des entreprises françaises. Enfin, c'est grâce à l'action de la France, donc la mienne, que le dictateur avait été chassé du pouvoir. Il était impossible de trouver la moindre indulgence de ma part à l'endroit de Kadhafi. De surcroît, comme je l'ai indiqué à nouveau aux familles au cours du procès, je n'ai jamais eu le moindre contact avec Abdallah Senoussi, l'auteur de ce monstrueux attentat. Nous étions deux jours avant la déterminante audience qui devait statuer sur ma mise en liberté. Nous avions prévu de consacrer ce samedi matin à sa préparation. Je retrouvai au parloir mes avocats, à l'étage de l'isolement, Jean-Michel Darroy et Christophe Ingrin. Après les avoir chaleureusement remerciés de travailler le week-end et d'être venus me rendre visite tous les jours, nous nous sommes mis au travail. Nous sommes passés rapidement sur mes garanties de représentation. Qui pouvait sérieusement imaginer que je choisisse de quitter la France par crainte de la justice? Je suis propriétaire de ma maison. Carla a sa carrière en France. Nos 5 enfants y résident. Nos 4 petits-enfants aussi. Mon cabinet d'avocat est à Paris, mes bureaux d'ancien président également. Qui aurait pu prétendre présenter des garanties plus sérieuses? Personne sans doute. Loin d'être un détail, il s'agissait d'une question essentielle pour envisager une remise en liberté selon les critères de la détention provisoire applicables à ma situation. Mes conseils souhaitaient que nous évoquions la question que pourrait poser la Cour d'une éventuelle pression sur des témoins ou sur d'autres acteurs de cette affaire. J'étais étonné de leurs préoccupations. Je n'avais jamais fait le moindre écart quant à l'application de mon contrôle judiciaire lors de ces 6 dernières années. Pourquoi commencerais-je? Les faits remontaient à près de 20 ans. Les déclarations des uns et des autres avaient eu le temps d'être gravées dans le marbre. Je jouais malgré tout le jeu de la préparation la plus sérieuse possible. Je voulais vraiment mettre tous les atouts de mon côté. Ne prendre aucun risque. L'enjeu était ma liberté, ce qui n'était pas rien. Je l'attendais avec une impatience que chacun peut imaginer. De plus, je commençais à m'inquiéter pour Carla. Elle avait tenu le choc de façon impressionnante jusqu'ici, mais je sentais que sa résistance commençait à s'effriter. Elle était fatiguée et supportait de plus en plus mal cette séparation interminable. Lorsqu'elle me visitait, elle était capable de donner le change pour ne pas ajouter de la pression à celle que je subissais déjà. Mais je voyais bien qu'il était temps que ce cauchemar cesse. Pour ce qui, je l'espérais, devait être notre dernier parloir, elle était venue accompagnée de Julia et de Pierre. C'était un véritable rayon de soleil. Les enfants étaient assez en forme et notre fille n'était pas impressionnée par le contexte carcéral. Nous avions au moins réussi à démystifier cet enfer pour eux. C'était aussi inespéré qu'heureux. En arrivant, Julia me glissa. « C'est surprenant. Même en prison, tu arrives à être élégant. » Dans son esprit, cela signifiait que j'avais l'air en bonne forme. Je lui répondis en souriant « N'oublie jamais ce que nous sommes en train de vivre. Même dans les pires moments, il faut garder sa dignité. » Tout faire pour ne jamais se laisser aller. Les conséquences en seraient trop graves. Pierre était attentif à Carla et à sa sœur. C'était beau, car lui aussi souffrait sans le dire. J'avais de plus en plus de mal à faire abstraction de la colère qui me saisissait en voyant ma famille pâtir de cette épreuve injuste. La nuit fut une nouvelle fois agitée. Vers 2 heures du matin, je fus réveillé par les échos de ce que j'ai cru être une violente bagarre. Cela dura presque 1 heure. Les cris et les hurlements remplissaient la cour. Il était vraiment impossible d'y échapper. Quelques heures plus tard, j'obtenais le fin mot de l'histoire en discutant avec les surveillants qui ouvraient ma cellule dès 7 heures. J'avais ainsi quotidiennement les nouvelles de la nuit à la santé. 2 co-détenus s'étaient querellés puis battus. Il avait fallu 4 surveillants pour les séparer en pleine nuit. Apparemment, ce ne fut pas une mince affaire. L'étonnant à mes yeux n'était pas que l'affrontement ait eu lieu, mais qu'il n'y en ait pas eu bien davantage dans une prison dont le taux d'occupation était de 191%. Comment cohabiter paisiblement et durablement avec un inconnu dans un espace aussi exigu qu'une cellule d'à peine 10 mètres carrés. Si on ajoute à cette réalité géographique le pédigré de violence des personnes enfermées, on réunit alors tous les éléments pour une explosion. C'est ce qui était arrivé. Je me suis senti à cet instant privilégié d'être à l'isolement. Il y avait pire que ce que je vivais. Cela m'aida à supporter ce nouveau dimanche de solitude presque complet.